إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة الكرام نواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وما زلنا في باب المزاح فقال هنا في هذا الباب الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى قال عمر يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتدرون لما سمي المزاح مزاحا قالوا لا قال لأنه زاح صاحبه عن الحق فمن هذا سمي بهذا الاسم وقد كان سلفنا رحمهم الله عندهم شيء من هذا وطرف منه نعم مثلا قد عاد الربيع الشافعي رحمهم الله الربيع عاد الإمام الشافعية فدعا الربيع للشافعي قوى الله ضعفك يا إمام فقال الشافعي لو قوى الله ضعفي لقتلني فقال الربيع والله ما أردت إلا الخير قال الشافعي اعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير يعني أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى مباسطة الربيع وإلا فقد جاء في الحديث قوي في رضاك ضعفي وأين تجد اليوم من تقول له أعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير نعم Donc on poursuit bi'idhnillahi azza wa jal l'explication du livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala Al-Adab al-Mufrad avec l'explication na'am du noble cheikh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahullahu ta'ala Donc Il dit le cheikh, toujours dans le chapitre Al-Muzah, hein, la plaisanterie, Naam. Il cite ici une parole de Omar, le compagnon Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui a dit « Savez-vous pourquoi la plaisanterie a été appelée Muzah ou Mizah ?» Pourquoi Al-Mizah est appelé par donc, les Arabes Mizah, qui veut dire donc la plaisanterie. Ils répondirent non. Alors il dit, car elle éloigne son auteur de la vérité. Yani elle écarte, elle dévie hein, celui qui plaisante de la vérité. Ça vient du verbe Zaha. Qui veut dire détourner, dévier quelque chose. Zaha. Vous voyez? Donc il dit que la plaisanterie a été appelée Muzah parce que لأنها زاحت ou لأنه زاحت زاحت enfin, car elle écarte son auteur, elle dévie hein, loin de la vérité. Et c'est pour ça que la plaisanterie en arabe a été appelée mizah. C'est bon? Non. Il dit, Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, nos prédécesseurs, Rahmatullah alayhim, disaient, dans ce domaine, dans ce chapitre-là qui est la plaisanterie, on dit des choses et on fait certaines choses qui ont été rapportées jusqu'à nous. Et on va en citer quelques-unes, Inch'Allah Ta'ala. Il a été rapporté que Al-Rabi' Rahimahullah, un jour, a visité l'imam Shafi'i, qui était malade. Taïb, vous savez que dans l'islam, bien sûr, il est fortement recommandé de visiter les malades. Taïb. Donc il visita l'imam Shafi'i lors de sa maladie. Et Al-Rabi' commença à invoquer en faveur de Shafi'i. Rahimahullah Ta'ala. Et il a dit, Qawwallahu da'faka, ya imam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala renforce ta faiblesse. Qu'Allah jalla wa ala renforce ta faiblesse au imam. C'est bon? Hein? Alhamdulillah, t'as compris donc ce qu'a compris l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Mais lui, bien sûr, ce qu'il a voulu dire, c'était pas ça. Lui, ce qu'il a voulu dire, c'est qu'Allah Jalla Ala change ta faiblesse en force, yani. En santé. Change ta maladie en bonne santé, yani. Hint. Mais, barakallahu fik, l'imam Shafi'i a compris tout de suite ce que tu as compris toi dans sa phrase. Taïe. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, l'imam Shafi'i? Il a dit, si Allah Jalla Ala renforçait ma faiblesse, yani, il m'aurait tué déjà. Je serais mort. Hein? Si Allah a renforcé ma faiblesse, je serai mort. Et Arabi a de répondre par Allah, je n'ai voulu, ni par cette invocation, que du bien pour toi. Et bien sûr, l'imam Shafi'i, il avait compris, bien sûr, avait compris son intention et ce qu'il avait voulu dire par là. Et Shafi'i de dire alors, je sais que même si tu m'avais insulté, tu n'aurais voulu que du bien. Donc ce genre de parole rentre dans le domaine de la plaisanterie, bien sûr. Hein? Shafi'i lui fait comprendre que même si tu m'avais insulté, eh bien, je sais très bien que tu ne veux pour moi que du bien. C'est bon? Alhamdulillah. Donc ici, l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a échangé ces paroles-là avec Al-Rabi', rahimahumullah, pour faire preuve de gentillesse. Hein, de gentillesse, de douceur, de sympathie avec cet homme-là qui était venu donc le visiter par amour pour lui, en Allah tabarak wa ta'ala. C'est bon? Mais sinon, il y a un hadith rapporté donc de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a précisé que ce hadith était faible, dans lequel il est dit que l'invocation, du'a, qawwi fi ridaka dha'fi, renforce dans ton agrément ma faiblesse. Renforce dans ton agrément ma faiblesse. Mais le hadith, il est dha'if, wallahu ta'ala a'lam. Puis j'ai le Cheikh Raslan, hafidhahullah ta'ala. Ou connais-tu quelqu'un aujourd'hui qui lui dirait à cet homme-là, je sais que si tu m'avais insulté, je sais que tu ne veux pour moi que du bien. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va t'insulter, ou qui va insulter quelqu'un, est-ce que la personne va lui dire, je sais que tu ne me veux que du bien, même si tu m'insultes, et ce genre de choses? Il dit les chers, yani, ceci était bien sûr est rare de nos jours, voire inexistant. والله تعالى أعلم ثم قال وقع بين الأعمش ومرأته وحشة فسأل بعض أصحابه فقالوا لما استشارهم أبو حنيفة يصلح بينكما فذهب إليه وأخذ بيده ليصلح بينه وبين امرأته فقال لها الذي جاء مصلحا هذا سيدنا وشيخنا فلا يزهدنك فيه عمش عيني وحموشة ساقيه وضعف ركبتي وخزل رجليه وجعل يصف. فقال الأعمش: قم عنا قبحك الله، فقد ذكرت لها من عيوبي ما لم تكن تعرفه. نعم. Une autre anecdote qui montre يعني, que les prédécesseurs parmi les imams يعني, plaisantaient. Ils pouvaient faire preuve de légèreté et de plaisanterie. Il y eut entre Tabi'i al-Amash et son épouse Donc il y a entre l'Amash et son épouse يعني, un froid, des tensions. Voyez. Donc l'Amash alla demander conseil et consulter ses amis, ses compagnons, qui lui ont dit, Abu Hanifa, donc l'imam Abu Hanifa, va vous réconcilier, Inch'Allah. D'accord? Donc l'Amash partit donc voir Abu Hanifa pour lui demander cette mission de réconcilier lui et son épouse. Taïeb. Donc il le prit par la main et ils allèrent voir l'épouse de l'Amash. C'est bon? Et arrivé donc chez son épouse, Abu Hanifa dit à son épouse, à l'épouse de l'Amash, ceci, cette personne, en parlant de l'Amash, est notre maître, notre cheikh. Donc, il ne faut pas que le problème qu'il a dans les yeux, alors qu'il avait un problème dans les yeux, c'est-à-dire il avait les yeux qui très faibles, il ne voyait pas bien, qui pleurait régulièrement, des larmes coulaient régulièrement de ses yeux, donc c'était un problème au niveau des yeux, une maladie. Il ne faut pas que cette maladie, ni des yeux, ne te fasse fuir, ni la maigreur de ses jambes, ni la faiblesse de ses genoux, ni le problème de ses pieds. Et autre que cela, il commençait donc à décrire l'Amash avec des qualificatifs rabaissants en vérité, et peu flatteurs. Pour l'Amash. D'accord? Donc il a commencé à mentionner ses mauvais yeux, c'est la maigreur de ses jambes, la maigreur de ses pieds, de ses genoux, etc. etc., etc. Donc comment il a pris l'Amash? Il a mal pris. Qu'est-ce qu'il a dit à l'imam Abu Hanifa, rahimahullah? Il lui a dit, c'est bon, laisse-nous, qu'Allah t'en les dise. Car tu as mentionné à ma femme de mes défauts, des choses qu'elle n'était même pas au courant. Hein? Donc il est venu à Abu Hanifa pour les réconcilier entre les deux et il a commencé à mentionner des choses que même sa femme n'était pas au courant au niveau de ses défauts physiques ou autres. Taïeb. وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لَهُ إِذَا نَزَعْتُ الثِّيَابَ وَدَخَلْتُ النَّهْرَ أَغْتَسِلْ فَإِلَى الْقِبْلَةِ أَتَّجِهُ أَوْ إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَهُ الأفضل أن يكون وجهك إلى جهة ثيابك لئلا تسرق وحينئذ إذا سرقت فماذا تصنع أتخرج من النهر لكي تسير في الطرقات عاريا. Aussi une autre anecdote, un jour un homme vint voir l'imam Abu Hanifa rahimahullah, et lui dit, lorsque je me déshabille, lorsque j'enlève mes vêtements et que je rentre dans une rivière pour me laver. D'accord? J'enlève mes vêtements et je plonge dans la rivière pour me laver. Est-ce que lorsque je me lave ou pendant au cours de mon lavage, est-ce que je dois me tourner vers Al-Qibla ou autre que Al-Qibla? Qu'est-ce qu'il a répondu le cheikh Abu Hanifa, l'imam? Il lui dit, le mieux est que ton visage soit tourné vers tes vêtements. Vers tes vêtements pour ne pas qu'ils se fassent voler. Taïeb. Car par conséquent, s'il se faisait voler, que ferais-tu? Que feras-tu? Vas-tu sortir du fleuve et courir dans les rues tout nu? Vous voyez? Non. وسأل شعبي رجل عن المسح على اللحية فقال له الشعبي خللها بأصابعك فقال له الرجل أخاف ألا تبلها فقال له الشعبي إن خفت فانقعها من أول الليل. Un jour, un homme demanda à l'imam al-Sha'bi, rahimahullah ta'ala, au sujet du fait d'essuyer la barbe. D'accord? D'essuyer la barbe, hein? Avec durant les el-wudu, durant l'ablution. D'accord? Et l'imam al-Sha'bi, rahimahullah, il lui dit, khallilha bi asabi'ik, yani, passe tes doigts mouillés à l'intérieur de ta barbe. D'accord? Passe tes doigts mouillés à l'intérieur de ta barbe. Vous voyez? Et l'homme lui dit, j'ai peur qu'en faisant ça, eh bien, mes doigts ne la trempent pas. D'accord? Mes doigts ne mouillent pas ma barbe. Ils ne suffisent pas pour que ma barbe soit mouillée. Vous voyez? Qu'est-ce que lui dit Mme Sha'bi rahimahullah? Donc, si tu as peur de cela, il lui dit, eh bien, fais mariner ta barbe dans l'eau au début de la nuit. Fais donc mariner ta barbe dans l'eau au début de la nuit, et là tu seras sûr qu'elle sera mouillée à la fin de la nuit, inshallah. Hein? Vous voyez? Donc c'est pour montrer, des fois les imams, les mashayikh, utilisent ce genre de réponse pour montrer des fois la question, le côté déplacé de la question, d'accord? Ou des questions, qui n'ont pas à être posées. C'est bon? وسأل رجل الشعبي رحمه الله هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ قال نعم. قال مقدار كم؟ قال حتى يبدو العظم. Un jour, un homme a demandé encore le même Sha'bi, rahimahullah ta'ala, s'il était permis pour le muhrim, donc le muhrim, c'est celui qui a un état d'ihram lors du pèlerinage. D'accord? C'est un état de sacralisation, l'ihram. Est-ce qu'il lui était permis de se gratter le corps? Un état d'ihram. L'imam lui dit oui. Il dit, non, c'est permis. Et l'homme lui dit, y a jusqu'à où je peux me gratter? Jusqu'à où, yani, à quel point je peux me gratter? À quel point? Jusqu'à quel point? Et l'imam de lui répondre, jusqu'à ce que tu voyes les os. Et tu peux te gratter jusqu'à ce que ta peau elle s'enlève, ta chair, et que tu voyes les os. Et on trouve des fois dans ce genre de questions une forme d'exagération justement dans les questions. C'est pour ça que les ulama des fois font exprès d'exagérer dans les réponses pour montrer le caractère excessif de la question. D'accord? C'est bon? طيب. وروى الشعبي رحمه الله: تسحروا ولو بأن يضع أحدكم إصبعه على التراب ثم يضعها في فيه. قال رجل: أي الأصابع؟ فتناول الشعبي إبهام رجله وقال هذه. Un jour, l'imam Sha'bi, rahimahullah ta'ala, pour inciter les gens et pour montrer la baraka qu'il y a dans at-tasahhur, yani dans suhur, le repas que l'on prend avant le fajr, hein, précédant le jeûne, il dit tasahharu, prenez ce suhur, même si vous mettez ne serait-ce qu'un seul doigt, yani dans la terre, allez, pour mettre de la terre dans votre bouche, et que vous mettiez la terre dans votre bouche pour justement consommer quelque chose avant le jeûne. D'accord? Bien sûr, ça c'est une expression qui rentre dans l'exagération pour montrer que suhoor est très important. Ce repas-là, il est très important et qu'il ne faut pas le négliger en aucun cas. D'accord? Donc il leur dit, tasahharu, faites le suhoor, même si pour cela vous mettez un doigt dans la terre et que vous mettiez la terre dans votre bouche. Un homme, il lui a dit, quand il a entendu ça, il lui a dit, quel doigt on met? Quel doigt doit-on mettre? dans la terre. L'imam, il lui dit, Naam, donc qu'est-ce qu'il a fait à Sha'bi? Au lieu de répondre verbalement, il a yani, posé sur terre son gros orteil. Hein, il a montré son gros orteil du pied et il a dit celui-ci, ce doigt. Le gros orteil, Naam. Voyez? Donc toutes ces anecdotes-là nous montrent que il est permis de plaisanter, il est permis de faire preuve de légèreté, d'accord, sans que cela yani, ne rentre dans le mensonge ou dans des choses qui contredisent la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Ou qui contredirait aussi les usages et les bonnes mœurs, etc., etc. Taïeb. نعود إلى الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يا أنجشة هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ماريا وكان حسن الصوت في الحداء جدا. Donc, on revient au hadith de ce chapitre dans lequel donc il dit ici Anas ibn Malik radiallahu anhu qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé certaines de ses épouses et avec elles il y avait la mère de Anas ibn Malik au Musulaim. D'accord? Et le prophète de dire à Anjasha, qui était donc, comme il dit ici le Cheikh Raslan Fidallah Ta'ala, un des esclaves affranchis du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelait Anjasha. Anjasha Abu Maria. D'accord? Anjasha Abu Maria. Et il s'adresse à lui, le prophète. Il dit, oh Anjasha, Rouaidan, doucement, doucement, Sawqaka bil Qawarir. Donc, Anjasha, il était là, en fait, pour conduire un convoi de chameaux. Et ces chameaux, ils portaient donc certaines des épouses du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et avec elles, il y avait aussi, donc, Umm Sulaym. C'est bon? Et lorsque le prophète, il a vu ça, il a vu qu'Anjasha était en train de mener ce convoi de chameaux et sur lesquels il y avait ses femmes, il a dit, ya Anjasha, doucement, va doucement, sache que sawqaka, sache que ton convoi ou ta conduite, bil qawarir, il y a sur les chameaux que tu es en train de conduire, des qawarir, des bouteilles en verre. Des bouteilles en verre. D'accord? Donc il voulait parler de qui ici, le prophète? Quand il a dit les bouteilles en verre. Hein? Non, des femmes. Des femmes qui avaient sur les chameaux, qui étaient transportées sur les chameaux. C'est bon? Donc il a comparé les femmes à des bouteilles en verre. D'accord? Taïeb. Donc ici, Anjasha, Abu Maria, pardon, était quelqu'un qui avait une très belle voix lorsqu'il convoyait les chameaux, qu'il guidait les chameaux. Il avait l'habitude de chanter avec sa voix. D'accord? Il avait une très belle voix et il chantait pour justement faire avancer les chameaux à l'allure qu'il désirait. ورويدا وفي رواية شعبة أرفق وحميد جمع بينهما فقال رويدك أرفق. Donc ici le terme رويدا ça veut dire doucement. Dans certaines versions on a أرفق à la place. Yani, va doucement, sois gentil, sois doux. D'accord? Et dans la version de حميد on a les deux, on a رويدا et أرفق également. قال القاضي عياض رويدا منصوب على صفة لمحذوف دل عليه اللفظ أي سق سوقا رويدا ومعناه أرفق بهن. Donc l'imam al-Qadhi, عياض, il dit رويدا ici, il a le sens de soit gentil, soit douce avec elle, c'est-à-dire avec les femmes que tu es en train de conduire sur les chameaux, fais attention. D'accord? قال النووي رحمه الله أو على المصدر أي أرود رويدا فقال الراغب رحمه الله رويدا من أورد كأمهلا وهو من الرود وتردد في طلب الشيء برفق والرائد طالب الكلى ورادت المرأة ترود إذا مشت هينتها. D'accord? Donc le verbe rada qui vient également du même de la même racine que rouida. On peut dire radat al-mar'a, c'est-à-dire une femme qui marche lentement. Une femme qui marche doucement, qui marche lentement, on peut utiliser ce terme-là qui est le verbe arada également, d'accord. وقال السهيلي قوله رويدا جاء بلفظ التسخير لأن المراد التقليل أي ارفق قليلا رويدا سوقك بالنصب على نزع الخافض أي ارفع سوقك أو سقهن كسوقك. وقال القرطبي رحمه الله سوقك مفعول به لرويد والنساء يشبهن بالقوارير في الرقة واللطافة وضعف البنية وقيل شبههن بالقوارير لسرعة انكسار قلوبهن وسرعة انقلابهن عن الرضا وقلة دوامهن على الوفاء كما قال صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة لقالت ما وجدت منك إحسانا قط يكفرن بالعشير. نعم. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, il dit ici que An-Nisa, les femmes ici, ont été comparées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à des bouteilles en verre, qawarir. Donc le point commun ici entre les femmes et les bouteilles en verre, c'est leur fragilité. D'accord ? Leur fragilité, la faiblesse de leur la faiblesse physique, de leur corps, d'accord, et de leur carrure. D'autres disent que il les a fait ressembler à des bouteilles à cause de leur fragilité au niveau du cœur. Les femmes ont le cœur qui se brise facilement, comme une bouteille en verre se brise également facilement, d'accord. D'autres disent également que cela fait référence à leur facilité à changer d'humeur, d'accord, à passer de la satisfaction à l'insatisfaction facilement, rapidement, et au fait que elles ne soient pas fermes et stables sur l'honnêteté ou la sincérité ou ce genre de choses. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّ أَحَدَكُمْ l'un d'entre vous, en parlant aux hommes, lorsque l'un d'entre vous fait preuve de bienveillance envers son épouse pendant 40 ans, 40 سنة, pendant 40 ans, puis, il a été mauvais ou méchant avec elle une seule fois. Il s'est manqué avec elle une seule fois durant ses 40 années ou après ses 40 années de bienfaisance. Elle lui dit, je n'ai vu en toi aucune bienveillance. Je n'ai vu en toi aucune bienveillance. Yakfurna al-Ashir. Et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ces femmes, donc elles sont ingrates envers leurs époux. Al-Ashir, c'est l'époux. Elles sont ingrates envers leurs époux. Donc ça montre ici donc l'instabilité de la femme et le fait qu'elle ne soit pas stable et ferme sur l'honnêteté, sur le fait d'honorer ses devoirs. Voilà, c'est bon? Alhamdulillah. Jayid. Idan, naktafi bihada, inshallah. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.